Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Hi, my name is Edward Snowden.
Voilà, Edward Snowden dans un morceau que Jean-Michel Jarre a sorti ces jours-ci, un lanceur d'alerte, vu comme un héros par le musicien français qu'il a expliqué, qu'il compare d'ailleurs à sa grand-mère entrée en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Un lanceur d'alerte parmi beaucoup d'autres qui sont au cœur de l'actualité ces dernières semaines, entre les révélations de Panama Papers, la directive européenne sur le secret des affaires, la loi Sapin 2 en France, c'est le statut juridique qui pose question. Irène Frachon pour le Mediator, Chelsea Manning pour Wikileaks, Hervé Falciani pour HSBC, Stéphanie Gibaud pour UBS, des hommes, des femmes qui ont permis à la vérité d'émerger au péril parfois de leur sécurité, souvent de leur vie professionnelle. Sont-ils assez protégés? Faut-il les protéger? C'est le thème de ce soir. Bienvenue dans le débat du jour. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Florence Hartmann, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, essayiste et auteur du livre « Lanceur d'alerte » qui est paru en 2014, je crois, aux éditions Don Quichotte. Nicole Marie-Meyer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de mission alertétique à l'ONG Transparency International France. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet sur ces questions juridiques, une question qu'on entend sur une formule qu'on entend beaucoup, Nicole Marie-Meyer, les lanceurs d'alerte sont-ils des héros, comme le répète Jean-Michel Jarre, entre autres, mais il n'est vraiment pas le seul, ou des traîtres, comme le pensent et le disent certains dans le débat public?
J'ai envie de répondre, pardon, ni l'un ni l'autre, puisque si l'on prend une définition, vous avez un certain nombre de définitions. D'abord, c'est un débat qui dure depuis 50 ans. Vous avez environ 60 pays qui ont adopté des législations de l'alerte au fil de ces 50 années. Et vous avez un certain nombre de législations, mais les ONG, les législations, j'allais dire, convergent vers la même définition, c'est-à-dire que c'est une personne qui fait un signalement dans l'intérêt général. Alors nous, nous avons une personne qui signale un acte illicite, illégal ou dangereux pour autrui aux personnes ou instances ayant le pouvoir d'y mettre fin. Donc à partir du moment où une personne fait un signalement dans l'intérêt général, il n'agit aucunement dans un intérêt privé. Et la différence entre le lanceur d'alerte, c'est que le lanceur d'alerte agit dans l'intérêt général avec généralement des représailles à son corps défendant. C'est pas un métier, c'est pas une vocation, c'est généralement une tragédie à son corps défendant.
Et d'ailleurs, beaucoup de lanceurs d'alerte disent que ce sont des décisions difficiles à prendre.
Oui, ce sont des dilemmes entre différentes loyautés. Et généralement, on subit des représailles et on a tout à perdre ou beaucoup à perdre. Tandis que, effectivement, le délateur ou le dénonciateur agit par vengeance ou par intérêt privé. Et la grande différence, c'est cela, intérêt général contre intérêt privé. Donc ce n'est pas un traître, ce n'est pas nécessairement non plus un héros, parce que tout citoyen est censé agir dans l'intérêt général. Donc l'héroïsation n'est pas non plus une bonne idée. Si vous voulez, l'idée, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de lanceurs d'alerte subissant des représailles. Il devrait y avoir des citoyens faisant des alertes responsables. C'est le principe de responsabilité et co-responsabilité.
Florence Hartmann, vous êtes d'accord? Un lanceur d'alerte, en fait, ce n'est qu'un citoyen?
Absolument, parce qu'on a tous une responsabilité dans le fait que les lois doivent être respectées dans l'intérêt justement de général, c'est-à-dire l'intérêt de la société, et qu'à certains moments on est témoin de quelque chose qui n'est pas accessible aux autres, voire même au pouvoir public en fait, et que cette connaissance particulière d'un acte illicite, bon par exemple Irène Frachon, se rendant compte qu'il y avait un risque avec ce médicament, qu'elle vérifie avant de lancer l'alerte, personne ne pouvait le savoir. Le médiateur. Personne ne pouvait le savoir. Donc, c'est à chacun de prendre le relais, quelque part, pour que la société fonctionne dans l'intérêt de tous. Il ne s'agit pas de mener des combats individuels ou idéologiques ou ceux qui nous plaisent plus ou moins. Mais si on sait que la société est vraiment en danger, ou un grand nombre de personnes, et qu'on est le seul à le savoir, on a un choix très simple, c'est soit on se tait. et en général, on est récompensé parce qu'on est dans une société qui continue à fonctionner au mérite du silence, de pas de vagues, etc. Et tous les lanceurs d'alerte le disent. Je me serais tue, j'aurais une carrière, alors que maintenant je vis l'enfer. Et donc, soit se taire et devenir donc complice de cette illégalité que l'on connaît. Donc, reprenons Irène Frachon, qui est l'exemple le plus connu, c'est d'accepter qu'un laboratoire continue à faire de l'argent sur un médicament qui s'avère dangereux, parce que c'est mieux vu dans la société que de dire non, il y a un véritable problème, je prends des risques, je vous le dis, parce que elle était médecin en plus, donc c'était son sens éthique, c'était pas nécessaire. Sincèrement, ce qu'on attendait d'elle. Et c'est comme ça que ça fonctionne.
Mais d'abord, un regard suspicieux avant de voir le citoyen dans le lanceur d'alerte.
C'est porter secours à une personne en danger. C'est exactement la même chose. Dans une rame de métro, vous voyez quelqu'un qui se fait violer ou agresser. Soit vous faites partie des gens citoyens qui restent assis ou ceux qui essayent de faire d'une manière ou d'une autre quelque chose. Donc c'est cette question-là que à laquelle sont confrontés dans un contexte plus particulier, celui de leur emploi, les lanceurs d'alerte.
Nicole-Marie Meyer, il existe déjà un arsenal législatif, des lois qui protègent, donnent un statut juridique à ces lanceurs d'alerte. Et pourtant, vous, Transparency International, vous avez collaboré, je crois, avec le député Yann Galli pour l'aider à monter un nouveau projet de loi. Vous pensez que les dispositifs actuels ne sont pas suffisants pour protéger un lanceur d'alerte français ?
Alors la France a légiféré extrêmement tard, puisque la France a commencé à légiférer en 2007. Et si l'on sait qu'effectivement les législations se sont construites à partir des années 60, qu'elles sont arrivées en Europe à partir de 1998 avec le Royaume-Uni, la France se démarre très tard, même vis-à-vis de l'Europe. Alors on peut y trouver un certain nombre de raisons, mais si vous voulez, le problème c'est que Vous avez toujours deux façons de légiférer. Vous légiférez dans la raison ou dans l'émotion. Donc vous avez des pays qui ont eu une série... Aucun pays n'a légiféré par vertu spontanée. Ils ont tous légiféré suite à des tragédies, des drames, des scandales et des centaines ou des milliers de morts. Donc ça, c'est le point de départ de ces législations. Simplement, vous pouvez avoir soit vous construisez une grande loi, comme les Britanniques. Les Britanniques prennent 5 ans pour une grande loi cohérente. Les Français font comme les Irlandais ou d'autres pays. Chaque fois qu'ils ont un scandale ou une tragédie, on protège un signalement qui est le signalement lié à cette tragédie. Donc, de 2007 à cette année, à 2016, on a d'abord sorti une loi en 2007 qui était l'application, l'adaptation d'une convention internationale ratifiée, qui était la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc on fait un segment, qui sont les actes de corruption du secteur privé, en 2007. Ensuite, on a l'affaire du Mediator. Ça va donc déclencher deux lois sanitaires. Donc en 2011, la loi dite Bertrand qui protège la sécurité sanitaire du médicament. En 2013, la loi dite Blandin qui protège les risques graves santé et environnement. Vient le scandale Cahuzac. Et on fait une série de lois anticorruption et on va cette fois-ci protéger d'autres sédiments par segment et par empilement.
Alors peut-être donc, terminer, je vous en prie, terminer.
Donc on se retrouve avec 6, en plus il y a eu la loi sur le renseignement et maintenant la loi déontologie des fonctionnaires. Donc on se retrouve aujourd'hui avec 7 segments, c'est-à-dire 7 signalements protégés. Le texte n'est jamais le même. La liste des protections n'est pas les mêmes. Il y a deux lois qui oublient dans la liste des protections le licenciement. Donc vous n'avez pas de définition globale.
Ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que l'arsenal d'aujourd'hui
éclaté et lacunaire.
Lacunaire. Donc il manque des choses. Alors peut-être Florence Hartmann, que manque-t-il dans la loi telle qu'elle existe aujourd'hui en France pour protéger les lanceurs d'alerte ?
Alors, il manque beaucoup de choses. D'abord, il y a des problèmes de définition. Mais admettons que nous ayons de bonnes lois. Et souvent, on prend comme référence la loi britannique. Il faut qu'il y ait une véritable volonté politique. Il faut que cette volonté politique soit aussi suscitée par une société qui comprend les enjeux et elle commence à les comprendre. Peut-être pas dans sa totalité, mais en tout cas, c'est un sujet qui vient. Mais même quand ces lois sont éventuellement bien formulées, viennent des directives extérieures ou d'autres lois qui viennent les contredire. Donc un juge, si besoin, se retrouve dans une situation un petit peu compliquée. Et d'autre part, le résultat est, et une bonne loi britannique fait que les lanceurs d'alerte sont quand même énormément en danger et ne sont pas dans la pratique protégés comme ils devraient l'être. Donc il faut non seulement des lois qui soient cohérentes et globales et pas morcelées, on n'a pas le droit de préférer le lanceur d'alerte qui remplit les caisses de l'État, c'est-à-dire il y a toujours une propension, il y en a toujours eu dans tous les pays, et là elle est flagrante dans les dernières semaines, dans les déclarations.
Vous parlez de la lutte contre l'évasion fiscale qui fait du coup revenir des impôts dans les caisses de l'État.
Voilà, quand vous êtes des auxiliaires directs de l'État et que vous nous intéressez, qu'en plus vous récupérez de l'argent qu'on nous a caché,
on les protège plus parce qu'ils...
Quoique, si on prend le cas de Stéphanie Gibaud qui a été lanceur d'alerte dans le cas de la banque suisse UBS et qui a rapporté énormément d'argent à la France, elle est au RSA. Donc bon, il y a de grandes paroles, mais il n'y a rien de concret.
Mais alors, concrètement,
on n'aime pas ceux qui viennent déranger. Si on vient dire qu'un ministre est corrompu ou je sais plus autre chose, là c'est pas nécessairement donc
mais alors est-ce que du coup la loi Sapin 2 comme on l'appelle n'apporte pas certaines réponses nécessaires, par exemple création d'un statut unique de protection pour tous les lanceurs d'alerte, est-ce que ça c'est pas une première réponse, ou la création d'une agence nationale de lutte contre la corruption qui apporte quand même des moyens aux lanceurs d'alerte, est-ce que Nicole Marie Meyer, ce ne sont pas des réponses à des problèmes concrets qui viennent d'être énoncés?
Nous nous battons depuis 2009, effectivement, Transparency, avec une coordination d'ONG, nous nous battons depuis 2009 pour avoir un triptyque, c'est-à-dire une loi globale avec une définition globale. Deuxièmement, une agence indépendante qui puisse traiter toutes les alertes, mais indépendante, bien évidemment, avec des moyens et des ressources dédiées, ce qui est fort important, qui puisse à la fois investiguer, suivre le traitement, conseiller les lanceurs d'alerte.
Donc là, dans le cadre de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, comme ça ne se fait pas.
Et un fonds de dotation ou une fondation pour les victimes ou une maison des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire l'accompagnement aux personnes. Bon. La loi Sapin 2, telle qu'elle est totalement, pour le moment, schizophrénique. C'est-à-dire que vous avez d'une part un texte où il n'y a presque rien, puisqu'il y a une agence qui est créée, mais uniquement pour les atteintes à la probité, qui sont une toute petite section du code pénal et de la vie économique.
Donc
cette agence n'est créée que pour les atteintes à la probité. Vous n'avez pas, vous avez uniquement pour le moment comme avancée, la prise en charge financière des frais de procédure. Ça, c'est une chose que nous demandons. Et de l'autre côté, vous avez eu ce texte de loi présenté, et en même temps, vous avez eu un engagement effectivement très ferme et très intéressant du ministre Michel Sapin, qui à la fois dans son discours et dans son dossier de presse s'est engagé à mettre en place un statut unique, une définition globale, à élargir à l'ensemble des lanceurs d'alerte la possibilité d'avoir accès à cette agence et aux frais juridiques. Le problème, c'est que tout ceci doit être introduit par amendement, mais que cela n'existe pas encore.
Florence Hartmann, est-ce que vous êtes d'accord? Des dispositions qui vont dans le bon sens, mais qui sont lacunaires et parfois pas très cohérentes.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais le problème, c'est qu'on est toujours dans ce discours, et ça fait des années que tout le monde demande exactement la même chose, ce que Nicole Marie Meyer vient de présenter. En France et dans d'autres pays, il y a une unanimité globalement sur ces mécanismes à trois niveaux pour que tout le parcours de l'alerte et des problèmes qui s'en suivent pour le lanceur soit couvert. Donc, être en 2016 en train de promettre et de la part d'un seul ministre qui est peut-être, et je ne le mets pas en doute, complètement sincère, mais qui est, ce n'est pas une décision au niveau du gouvernement qui sera suivie, ça ne concerne pas simplement le ministre des Finances.
Vous auriez préféré un engagement du chef de l'État très ferme, je veux oui, moi aussi
non,
un
j'aimerais statut, une définition. Qu'ils se mettent au travail, pas des engagements, ils sont obligés, le Conseil de l'Europe a rappelé à l'ordre à plusieurs reprises la France sur ce point-là. Non, c'est de ce qu'ils se mettent au travail et travaillent, continuent à travailler parce que certains législateurs ou certains députés le font avec Transparency International, avec une présence des acteurs dans la société civile de cette question-là qui peuvent aider parce qu'il y a une expérience juridique dans d'autres pays et on n'est pas obligé d'inventer l'eau chaude. Donc il faut mettre en œuvre des choses qui existent et s'assurer qu'elles soient appliquées jusqu'au bout, c'est-à-dire que la personne non seulement aide à faire respecter et donc à renforcer l'état de droit, mais non seulement n'est pas punie et puisse vivre normalement pour avoir fait son travail de citoyen.
Je crois qu'il y a aujourd'hui un engagement qui va un peu au-delà des paroles, effectivement, et ça c'est très intéressant, puisque le Premier ministre avait demandé en juin au Conseil d'État de faire une étude sur le dispositif français et ses lacunes et de faire des recommandations. Et le Conseil d'État a rendu ce rapport la semaine dernière avec une quinzaine de propositions qui vont dans le bon sens. D'une part, c'est un paysage remarquable. Nous avons enfin un paysage complet.
Mais c'est quand même contradictoire d'avoir un avis qui est intéressant, mais une loi au même moment qui est lacunaire.
Je pense que toute la dichotomie entre le texte et l'engagement politique du ministre, c'est qu'il venait de recevoir le rapport du Conseil d'État et qu'ils vont maintenant intégrer par amendement à la fois, effectivement, les recommandations du Conseil d'État et une bonne partie de la loi
Galup. Donc ce texte peut évoluer dans le bon sens, selon vous. Alors juste, il nous reste quelques minutes. Je voulais quand même vous poser la question sur cette fameuse directive européenne sur le secret des affaires qui a été votée. Alors, elle suscite beaucoup d'inquiétudes. Pourtant, il y a quand même cet article 5, je lis un court extrait, qui indique que ne pourront pas être poursuivis ceux qui violent le secret des affaires s'ils ont agi pour protéger l'intérêt public général. On a insisté sur cette notion au début de l'émission, Florence Hartmann. Est-ce que du coup, ce texte vous satisfait ou vous inquiète ?
Non, ce texte m'inquiète parce que il renforce d'abord, et c'est son objet, le secret des affaires, et donc laisse une latitude, et c'est tout le problème de la manière dont sont traités les lanceurs d'alerte dans nos sociétés démocratiques, on parle bien de la France ou d'autres sociétés démocratiques, où il y a toujours quelqu'un de plus fort qui dit non, ça on n'avait pas le droit de le faire, ou soit on n'avait pas le droit de le dire. Et ce texte-là, justement, remet en cause, qui pose problème également pour les journalistes.
C'est un autre débat, mais qui
touche. Le secret, c'est une restriction à la transparence qui est la règle.
Donc à partir du moment où on renforce le secret, vous dites attention.
En fait, la définition du secret des affaires est tellement large et floue, elle est maximaliste. Et les exceptions dont effectivement le lanceur d'alerte, si vous voulez, la définition du lanceur d'alerte dans la directive est réduite aux violations de la loi et vous avez une inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est à condition, sous réserve, que le lanceur d'alerte ait agi pour protéger l'intérêt général. Voilà. Donc vous avez à la fois une définition très restrictive aux violations de la loi et ce qu'on appelle une inversion de la charge de la preuve, ce qui fait que c'est effectivement dangereux.
Mais du coup, ce sera aussi une question d'application par les magistrats de ce texte.
Non, il ne faut pas compter là-dessus. Il faut une définition claire. Le monde des affaires a besoin de protéger le secret industriel, aucun doute. Mais le monde des affaires, c'est aussi l'évasion fiscale, c'est aussi des produits dangereux pour la santé, c'est aussi pour l'environnement. Donc, on a besoin d'avoir un minimum de transparence là où on peut s'attendre que les affaires respectent les lois de leur pays, les lois européennes ou internationales, et pas simplement sous prétexte d'avoir des petits secrets de licence industrielle, d'avoir droit de faire tout et n'importe quoi.
Mais on ne peut attendre 10 années de procédure pour compléter ou trancher vis-à-vis d'une définition très mauvaise.
Et je signale de ce point de vue-là que vous avez mis en ligne, disponible gratuitement, facilement sur le site de Transparency, le guide du lanceur d'alerte dans lequel vous donnez des conseils extrêmement concrets pour qui voudrait dénoncer des choses. Merci beaucoup à donc nos deux invités, Nicole-Marie Meyer, chargée de mission à l'ONG Transparency International France, Florence Hartmann, auteur du livre Lanceur d'alerte chez Don Quichotte. Merci également à Florence Ponce et à Hélène Avril.